10% des Français, mais l'exécutif souhaite en fait aller plus loin et tirer un trait dessus pour tout le monde, y compris les 20% les plus riches. Si les Français s'opposent à cette suppression globale, la présidence se dit prête à étudier la question. Près de 120 000 euros et une polémique, le tout collecté en moins de 48 heures. La cagnotte de soutien à Christophe Détinger, cet ancien boxeur soupçonné d'avoir agressé les gendarmes à Paris samedi pendant la manifestation des Gilets jaunes. Cette cagnotte a été close ce midi. Cagnotte de la honte pour les uns, cagnotte choquante pour la ministre des Transports, Elisabeth Borne. La plateforme Litchi qui hébergeait la collecte s'engage à ce que les fonds servent uniquement à financer les frais de justice du suspect. Dans le même temps, d'autres cagnottes ont été lancées. Cette fois pour soutenir les forces de l'ordre blessées, celle initiée par le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, a dépassé les 100 000 euros en quelques heures. La suite du procès Barbarin et la parole donnée aujourd'hui aux parties civiles. Selon l'un des 9 plaignants, le cardinal était, je cite, le seul à pouvoir empêcher un prêtre pédophile d'agir. Philippe Barbarin et 5 autres anciens membres du diocèse de Lyon sont jugés pour non-dénonciation d'agression sexuelle commise par un prêtre sur des scouts. Tous les suspects affirment n'avoir jamais voulu étouffer les faits, fermer les guillemets. C'était sa première comparution devant un juge, Carlos Ghosn, incarcéré depuis près de 2 mois au Japon pour malversation financière. Il se dit faussement accusé et détenu de manière injuste. Le patron de Renault est apparu ce matin au tribunal de Tokyo, amaigri, en costume sombre et sandales en plastique verte aux pieds. Il pourrait rester en détention jusqu'à son procès dans plusieurs mois. Reprise du trafic à l'aéroport d'Heathrow à Londres, en Grande-Bretagne. Tous les vols au départ ont été suspendus pendant 1 heure après le signalement d'un drone. Il y a 3 semaines, 1 millier de vols avaient été annulés à l'aéroport, cette fois de Gatwick, pour les mêmes raisons. Alors que 49 migrants sont toujours bloqués depuis plus de 2 semaines au large de Malte en mer Méditerranée, plusieurs ONG demandent à la France d'agir au plus vite pour les mettre à l'abri dans un port sécurisé. Une dizaine de pays européens, dont la France, se sont dit prêts à accueillir une partie de ces migrants. Mais les autorités maltaises exigent un accord global pour accueillir ces 49 personnes, plus les 249 autres que le pays a secouru ces derniers jours. La Coupe d'Afrique des Nations 2019 se déroulera en Égypte. Il s'agit bien sûr de football. L'Égypte préférée à l'Afrique du Sud en remplacement du Cameroun qui s'est retiré de l'organisation. Ce sera la 5e fois que l'Égypte organise la compétition. 20h03 sur France Inter, on part à la Bourse de Paris. La journée termine plutôt bien, Antoine Verlin.
Malgré une petite baisse de régime en fin de séance, le marché parisien a enregistré une belle progression. À la clôture, le CAC 40 affiche un gain de 1,15%. Il est à 4773 points. Un rebond encore essentiellement soutenu par l'espoir d'une amélioration des relations commerciales entre la Chine et les États-Unis, alors que la Maison-Blanche a fait part de son optimisme concernant l'issue des négociations avec Pékin. Dans ce contexte, les indicateurs économiques publiés aujourd'hui n'ont pas eu d'écho. Pourtant, en novembre, le déficit commercial de la France s'est creusé de 1 milliard d'euros à 5,1 milliards. Et dans le même temps, la production industrielle de l'Allemagne a reculé de 1,9%. Au sein de la cote, Orange s'est distingué avec une baisse de près de 3%. C'est la plus forte baisse du CAC 40. L'opérateur envisagerait de reprendre son concurrent basque Euskaltel, selon le quotidien et l'Economista. Mais beaucoup de valeurs ont rebondi aujourd'hui, comme Capgemini, Airbus, Kering, Valeo ou Unibail, qui ont repris plus de 3%. En fin de séance, l'euro se négocie à 1,1445. Le CAC 40 a repris, lui, 1,15% à 4773 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse pour France Inter.
Lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 16h.
Hop hop hop, c'est l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon...
Antoine Decaune.
Demain, 2 jours après les Rois Mages, la reine Foresti débarque dans notre arène à nous.
Pop pop pop.
Sur France Inter, à partir de 16h.
8 potes, un lieu, ni ville, ni cité, et l'ennui à habiter. Un canapé, des clopes à cendrer, des rêves à espérer. Une écriture transcendée par l'oralité. Fief est un livre d'exception, d'une précision millimétrée, qui se lit en une seule respiration. Fief de David Lopez, prix France Inter, maintenant en poche chez Point.
France Inter, passé de 20h, passé de 5 minutes, on retrouve tout de suite Laure Adler et l'heure bleue.
Bonsoir Hélène et bienvenue à toutes et à tous.
L'heure bleue sur France Inter.
Dans une société où l'on peut tout perdre du jour au lendemain, son travail, sa maison, l'amour de son conjoint, la filiation contemporaine veut assurer à tous les enfants la sécurité d'un lien différent de tous les autres. Le seul lien social conçu désormais comme inconditionnel, fait pour durer la vie entière, quelles que soient ses modalités d'établissement et quel que soit le sexe des parents ou leur statut conjugal. Irène Théry est ce soir notre invitée et comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec « Le vent nous portera » dans la très belle version de Sophie Hunger.
Faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert. Le vent l'emportera, tout disparaîtra, le vent nous portera. Caresser la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours.
Irène Théry, vous êtes l'une des plus grandes spécialistes de la sociologie de la famille, de l'histoire de la famille, du couple. Vous avez été aussi responsable dans des gouvernements successifs pour essayer de comprendre par le biais de rapports l'évolution de cette dite famille. La première question que j'avais envie de vous poser, elle est très personnelle. De qui êtes-vous la fille ?
Je suis la fille... Je suis la fille de mes parents, tout simplement, c'est-à-dire d'un couple qui à la fois était très représentatif de son temps, qui vivait dans son temps, c'est-à-dire le couple des qui s'est formé à la fin de la guerre, et donc cette famille des années 45, 55, 60, j'avais 16 ans en 68, et donc, mais le couple de mes parents, je m'y suis j'ai toujours adoré mes parents d'abord, mais je les ai perdus, ils étaient jeunes, j'ai maintenant 10 ans de plus que l'âge que mon père avait quand il est mort, et je suis de plus en plus sensible au fait que cette génération a été une génération très particulière, que on renvoie souvent du côté de la tradition, par exemple pour la famille. Moi, par exemple, ma mère a fait des études assez longues et elle a fait HEC jeune fille, les longues eaux. Mais quand elle s'est trouvée mariée, elle a laissé tout ça pour devenir une mère au foyer. Elle n'a retravaillé que plus tard. Mon père était à la fois un père très classique, on va dire, un pater familias, avec quelquefois des colères assez remarquables, et en même temps un homme extrêmement ouvert. C'était des intellectuels, mes parents, très en distance par rapport aux mœurs de leur temps, très très ouvert d'esprit, et une génération qui s'est trouvée entre deux. Vous savez la fameuse phrase de Simone de Beauvoir, j'ai été flouée. J'y pense souvent en pensant à ma mère, c'est-à-dire qu'elle est de la génération qui a touché du doigt la possibilité d'autre chose, qu'il a voulu d'ailleurs pour ses filles avec évidence, et qui en même temps, elle, est passée juste avant. Donc c'est toujours avec un sentiment très doux de piété filiale que je pense à la famille dont je suis issue.
Et la mère de votre mère ?
Alors la mère de ma mère, c'était une très forte femme, qui a commencé sa vie avec une grande difficulté, puisque elle était née hors mariage. Elle était ce qu'on appelait à l'époque une bâtarde, et elle a porté toute la vie. Donc, ma mère est née en 1920. Ma grand-mère est née à la fin du 19e siècle, et d'une naissance hors mariage, qui était comme une tache sur le front. Et elle a porté toute sa vie à la fois cette difficulté sociale de sa naissance, le fait d'être une paria sociale, et une volonté très forte de réintégration sociale, de légitimité sociale. Et justement, elle a eu 7 enfants auxquels elle a donné, alors qu'elle-même n'avait pas eu d'éducation. Elle a fait sa vie en faisant une pension de famille. C'est-à-dire
pension
qu'elle a
de famille.
Oui, parce que il fallait que ce soit digne, madame. C'est pas un hôtel, une pension de famille. Et elle a donné la meilleure éducation possible à ses enfants. Elle s'est dévouée tant et plus pour ses enfants. Vous voyez, dans un mouvement d'ascension sociale et de revanche sociale, mais aussi de volonté très profonde d'intégration, de résistance, que j'admire beaucoup d'ailleurs, comme je l'admire chez la mère de ma grand-mère, c'est-à-dire mon arrière-grand-mère, si on remonte encore une génération, sur laquelle j'ai de plus en plus réfléchi, qui était une lavandière, qui avait été au service d'une grande famille bourgeoise, qui a été dans ce contexte mise enceinte par son patron. Et on ne sait pas du tout dans quelles circonstances. Est-ce que c'était un viol ? Est-ce que c'était au contraire un amour ? Je n'en sais rien. Mais qui, en tout cas, quand elle s'est trouvée enceinte, évidemment, le patron n'a pas reconnu l'enfant. Et c'est elle qui, comme des dizaines de milliers de femmes de sa condition, s'est trouvée mise au banc de la société et dans son petit village du Morvan, auquel elle a fait face d'une façon que je trouve très courageuse, avec sa petite fille à la main. Et là aussi, l'a élevée d'ailleurs dans des principes très stricts et une volonté de faire face. Je pense que les femmes du passé avaient une force qu'on ne se représente pas face à l'adversité du sort qui leur était souvent faite. Et donc, si je prends toute la ligne, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère et moi, eh bien, je trouve que je suis des quatre celle qui a la chance de vivre dans un monde dans lequel justement le poids de ces stéréotypes, de ces destins pèse beaucoup moins, et je souhaite qu'il pèse encore moins pour ma fille et mes petites filles.
Dans un texte paru dans le journal Le Monde, daté du 22 octobre 2017, juste au moment de l'éclatement de l'affaire Weinstein, Vous avez publié un article qui a beaucoup fait parler de lui, qui s'intitule « Pour une nouvelle civilité sexuelle ». On reviendra d'ailleurs sur cette proposition que vous faites. Et à l'intérieur de cet article, vous vous indignez face à des réactions de machistes qui trouve un peu trop insistant « Balance ton porc » et « MeToo ». Et puis cette revendication des femmes et cette chaîne de solidarité absolument extraordinaire qui s'est créée à ce moment-là. Mais vous dites, je vais vous citer, « Moi aussi, j'ai été en proie à des histoires. Je vais donner les âges auxquels ça m'est arrivé, 8, 24 et 35 ans. » Que vous est-il arrivé à 8 ans, 24 ans et 35 ans, Irène Théry ?
Vous voulez vraiment que je le dise, remarquez.
Ben vous l'avez écrit, ça m'a interpellée en préparant cette émission.
Oui, bien sûr. Parce que ça fait partie de la façon dont j'ai compris, pour ma part, et dont j'ai participé à ce mouvement MeToo. Ça n'était pas une sorte de libération de la parole, si vous voulez. C'était justement le fait de dire ce que j'ai toujours vécu comme une question privée, ne doit plus être une question privée. Ça doit être une question collective. Et il n'est pas normal qu'une petite fille de 8 ans qui revient en vélo de l'école, non, c'est pas de l'école d'ailleurs, c'est d'un cours de gym un mercredi après-midi sur une petite route de la banlieue d'Aix-en-Provence, se trouve affolée, horrifiée par un motocycliste qui la terrifie en tournant autour d'elle, finit par arrêter sa moto, avance vers cette petite fille qui est sur son vélo, les deux pieds de part et d'autre du vélo de fait, vient mettre sa main entre ses jambes et lui dit « Je te viole, petite ». Voilà, c'est ça qui m'est arrivé. Donc je le raconte aujourd'hui parce que je veux que ça ne m'appartienne plus. À l'époque, je n'ai pas pu le dire à mes parents. J'ai pu leur dire que j'avais été agressée. Je ne connaissais pas la différence entre les mots « vol » et « viol ». Je croyais qu'ils voulaient me voler, mais je voyais bien ce qu'ils m'avaient fait. Et donc, je pense, il y avait eu l'année d'avant l'enlèvement du fils Peugeot, donc je savais qu'il y avait des gens très méchants qui enlevaient des enfants. Mais ce qui m'arrivait, je ne savais même pas ce que c'était. Mais je savais, et c'est ça qui est étrange, que c'était une souillure et une honte dont je n'osais pas parler à mes parents. Et je souhaite, et je l'ai dit dans l'article, que la honte change de camp. Et elle ne peut changer de camp que par notre mouvement collectif de toutes les femmes et aussi des hommes qui nous accompagnent, justement pour que il ne soit plus considéré comme un problème personnel ou privé, ce risque qu'on prend simplement à circuler sur une route un après-midi normal.
Et ça a recommencé à 24.
Non, après c'est pas les mêmes choses. J'ai pas mis les mêmes choses. Hein, c'est vrai que le pauvre type qui me pelote dans l'auto-école dans laquelle je suis en train de prendre des cours et qui profite d'avancer à chaque fois un peu plus ses mains sur moi, c'est autre chose, mais c'est une forme d'agression sexuelle. Le type qui me met la main aux fesses dans une manifestation du 1er mai sur la place de la République, c'est aussi autre chose. Voilà. Donc les choses peuvent être plus graves, moins graves, etc. Mais une femme, comme toutes les autres, et quand j'en ai parlé avec d'autres femmes, je me suis aperçue qu'on avait toutes au moins une histoire à raconter. Et c'est cet ensemble d'histoires personnelles que, grâce aux actrices qui ont pris la parole dans l'affaire Weinstein, pas n'importe qui, ces femmes qui justement incarnent la séduction, mais aussi incarnent beaucoup d'autres choses, qui autrefois étaient de ces femmes qu'on n'épouse pas justement, de ces femmes qui sont toujours un peu suspectes, de ces femmes dont on dit qu'elles sont toujours prêtes à coucher partout. Donc que ce soit ces femmes-là qui disent, il faut que la règle du jeu change. La règle du jeu doit changer. Il n'est plus admissible que ça soit un problème vécu individuellement, individu après individu. Et ce qui n'est plus normal, c'est que repose entièrement sur les femmes le soin d'avoir à réguler la sexualité, et d'abord la sexualité des hommes, à leurs risques et périls, de leur honneur, de leur intégrité, etc. Et donc, oui, ça me paraît un mouvement très important, qui n'est pas simplement une dénonciation, hein, mais qui est l'appel, et je crois que c'est très important, d'ailleurs les hommes y participent beaucoup, et ça a été le cas des acteurs aussi, l'appel à ce que les gros lourds, les violeurs, les accapareurs, etc., soient mis au banc, on va dire, de la virilité d'aujourd'hui et de demain.
La honte a-t-elle changé de camp pour vous, Irène Théry ?
Pour moi, elle a changé de camp, certainement, parce que justement, en fait, si j'ai hésité à parler de moi tout à l'heure, c'est C'est parce que je n'ai pas l'habitude de parler de moi, voilà. Mais en venant à votre invitation, je savais que j'allais le faire et je veux bien le faire aujourd'hui. Mais toute ma vie, c'est vrai que j'ai été un peu éduquée à l'idée on ne parle pas de soi. Mais si je le fais, c'est parce que justement ma vie personnelle, que ça soit par exemple mon rapport à mes parents ou à mes grands ou à ma grand-mère ou ce qui a pu m'arriver, participe de notre monde commun, de notre sort commun, de notre volonté commune de changer les choses. Et j'ai trouvé vraiment lamentable que des gens ne soient capables de voir là-dedans que la délation généralisée, etc. Et s'empressent de disqualifier ce mouvement. Bien sûr, c'est un mouvement complexe, bien sûr. Et si j'ai choisi la chanson « Le vent nous portera », c'est justement une façon aussi de dire que, quel que soit ce qu'a fait Bertrand Cantat, son œuvre est là. Sa chanson « Le vent nous portera » est la plus belle chanson de ces 20 dernières années. Une femme peut en retrouver une interprétation. Et donc, ne mélangeons pas tout, ne confondons pas tout, et ne nous transformons pas en une espèce de foule assoiffée de vengeance, mais faisons au contraire triompher véritablement les principes du droit, les principes de justice, plus quelque chose d'autre, cette civilité, c'est-à-dire le fait qu'il ne suffit pas d'interdire, il faut encore glorifier, valoriser la sexualité, ça va pas de soi. Il faut toutes les sociétés la mettent d'une façon ou d'une autre en civilité. Et je crois que c'est ce que nous essayons de faire en cherchant ensemble à énoncer ou à mettre en œuvre tout simplement des principes nouveaux de respect qui n'étaient pas organisateurs de la société traditionnelle.
Nous allons écouter la voix de Pierre Bourdieu qui va s'exprimer à propos de son livre qui n'est pas très connu, beaucoup moins connu que beaucoup d'autres de lui, intitulé « La domination masculine ». C'est une archivina du 19 octobre 1998.
Je pense que le « nous » est très très important. C'est vrai que je ne me suis jamais senti en extériorité par rapport à ce que je décrivais. Je pourrais dire que c'est un livre qui parle de moi en tant que « je » de la première à la dernière ligne. Mais il parle aussi, je pense, de tous les hommes. Et je pense aussi que je vois bien, la réception de ce livre est très différentielle. Bon, c'est tout bête à dire, mais c'est important. J'ai beaucoup de lettres de femmes, pas nécessairement des intellectuels d'ailleurs, bon, et très peu de lettres d'hommes, et beaucoup de signes d'énervement masculin qui me reprochent un peu de revenir à des problèmes qu'on aime à penser résolus. Bon, alors, donc le nous est important. Et ensuite, vous avez dit une chose que je crois importante de mon point de vue, c'est que ce qui est engagé dans ce rapport, c'est de la connaissance. Il s'agit, au fond, de structures cognitives. Bon, et il n'y a rien de plus difficile, au fond, à changer historiquement. Moi, je m'intéresse beaucoup, je travaille en ce moment sur Manet, c'est un vieil amour, bon, j'ai un texte en chantier depuis très longtemps, bon, pour exactement la même raison. C'est quelqu'un qui a fait une révolution cognitive et qui a été haï, détesté, enfin, peut-être plus que Marx ou même que Durkheim, enfin, bon, parce que il touchait à ces choses sacrées auxquelles nous n'admettons pas l'accès, c'est-à-dire la manière de connaître le monde, les principes de divinité, les principes de vision masculin-féminin, mais aussi antique-contemporain. Manet a chahuté cette opposition sur laquelle reposait tout l'académisme, etc. Donc, il s'agit du problème de connaissance, et ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas sérieux pour autant. Bon, il n'y a rien de plus sérieux qu'un problème de connaissance. Il n'y a rien de plus sérieux, à la limite, qu'une révolution symbolique.
Alors, nous venons d'entendre la voix de Pierre Bourdieu, qui avait fait un livre important qui s'intitulait « La domination masculine ». Il est l'un des rares intellectuels à avoir réfléchi dès l'aube des années 60 à ce problème de domination masculine. Je ne parle pas des savoirs anthropologiques, mais là des rapports de connaissances sociologiques. Je pense que ce livre est très important, d'abord parce que c'est un homme qui l'a écrit, ensuite parce que c'est Bourdieu. Vous êtes sociologue, Irène Théry. Et tout votre travail, j'ai l'impression, tente à essayer de nous faire comprendre, nous qui vivons dans cette société aujourd'hui, au jour le jour, de nous faire comprendre que les problèmes de masculin-féminin ne sont pas forcément des problèmes de nature, mais ce sont des problèmes de culture. Et que donc, à partir du moment où ils ne sont pas inscrits dans un ordre naturel, on peut les faire évoluer et faire diminuer cette fameuse domination masculine.
Alors, puisque vous citez Bourdieu, il faut quand même que je dise ce que j'en pense. J'apprécie évidemment beaucoup le souci qu'il a de la question de l'assujettissement des femmes, des inégalités entre les sexes. Mais je considère que la domination masculine est un livre catastrophique qui a fait beaucoup de mal, qui a fait beaucoup reculer la pensée et qui est, par rapport à un autre Bourdieu que j'ai beaucoup aimé, le Bourdieu du sens pratique, le Bourdieu des premières décennies, une sorte de caricature de son travail anthropologique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que l'idée de très simple de la domination masculine, c'est il y a aujourd'hui beaucoup de féministes qui discutent. D'ailleurs, enfin, si on avait le temps, on pourrait parler de la façon dont il disqualifie à peu près toutes les féministes de l'époque, depuis celles qui font l'histoire des femmes en France jusqu'aux américaines, en passant par Jeanne Favre-Saada. Tout le monde, toutes les femmes en prennent pour leur grade. Et puis arrive Monsieur Bourdieu qui va nous dévoiler, il emploie ce terme, il va nous dévoiler derrière les apparences le grand mécanisme de la domination masculine, la domination total des hommes sur les femmes et de le mécanisme encore pire de du consentement empressé de celles-ci à leur propre domination. Et ce dévoilement me paraît non seulement ne rien expliquer, mais rendre incompréhensible le monde dans lequel nous vivons. Et un exemple très simple, c'est celui qu'il prend lui-même et qui est cette Kabylie qu'il a aimée, dans laquelle il a travaillé magnifiquement dans les années 60. Il avait fait de superbes descriptions de la maison kabyle avec les retournements justement possibles de l'intérieur vers l'extérieur. Et il y avait dans cette description toute une anthropologie du masculin-féminin très profonde et très très riche. Et voilà que au-delà de ça, il va nous dire la Kabylie, c'est au fond la domination masculine à l'état pur. Lui qui aime tellement l'historicité, il nous dit un monde hors de l'histoire. Ah bon ? Et donc, ce qu'on y voit, c'est une caricature de société. Mais vraiment, comment peut-on regarder un Kabyle ou une Kabyle en face après avoir parlé ainsi de cette société ? C'est une société dont il n'y a rien à garder, rien à garder, que l'éternel abrutissement des femmes, leur contentement et leur consentement et leur participation à leur objectivation. Ces femmes ne sont pas simplement des objets, ce sont des objets, des signes. Bon, et vraiment, à quoi ça sert d'avoir décrit ainsi les choses? Je pense que Bourdieu était très content de lui parce qu'il avait l'impression que il avait poussé au plus loin. Voilà, plus le tableau était horrible, plus on était sûr d'avoir été au plus loin dans la dénonciation. Mais moi, je pense que le travail des anthropologues, des sociologues, c'est pas celui de se mettre en position d'être le plus avancé, le plus radical dans la dénonciation. Ça, c'est des positions gamines, je trouve. Ça, c'est des positions des jeunes de Normal Sup que j'ai vus quand je suis arrivée à Paris dans les années 70, et que j'étais fascinée par la radicalité, comme si c'était l'extrême de l'intelligence. Bon, je sais bien qu'il y a toujours des gens pour prendre cette posture, si vous voulez. Mais il y a beaucoup plus intéressant à faire. C'est d'essayer de comprendre et de décrire exactement le monde dans lequel on vit. Le monde kabyle, il a certainement des années 60, il a certainement des dimensions d'assujettissement des femmes qui sont très fortes. Mais la grande question à laquelle ont ouvert les anthropologues féministes qui travaillent depuis maintenant plusieurs décennies sur des sociétés traditionnelles, qui m'a le plus troublée, c'est que effectivement, en s'intéressant au statut des femmes dans ces sociétés traditionnelles, elles ont trouvé des situations d'oppression plus grandes que on avait imaginé, d'assujettissement plus grand que ce qu'on avait imaginé. Mais elles ont trouvé aussi, et là ça devient intéressant, des positions de pouvoir plus importantes que celles qu'on avait été capable de repérer, des positions d'autorité plus importantes. Et donc dans leur description, on n'a pas ces pauvres objets, etc. On a une situation complexe dans laquelle il n'est pas, il ne s'agit pas d'amadouer les choses. Hein, la hiérarchie peut être implacable entre les statuts masculins et féminins, mais la hiérarchie des statuts, c'est pas la hiérarchie des individus. Il y a une diversité, une capacité d'agir des individus partout. Voilà. Tout ça pour dire que moi, je plaide pour une approche non pas bourdieusienne de la domination masculine par le dévoilement, mais je fais partie du clan, on va dire, non pas des dévoileurs, mais des opticiens.
C'est-à-dire
les opticiens, c'est ceux qui pensent comme Proust, que quand Proust dit à la fin de la recherche, vous savez, il dit moi, le romancier, c'est un opticien. Il vous présente des verres, il vous les met sous les yeux, il dit et avec ça, est-ce que vous voyez mieux en vous-même avec ça, etc. Mais je pense que le sociologue, avec de tout autres outils que le romancier, a aussi un travail d'opticien à faire, c'est-à-dire nous donner des verres pour qu'on voit mieux ce qu'on a sous les yeux et qu'on ne voit pas parce que ça crève les yeux, par exemple, parce que c'est tellement familier, ou parce qu'il faut prendre une distance, donc regarder quoi, au microscope, quelquefois au télescope, changer la focale, etc. Et simplement, on a fait notre travail, c'est ce que disait Mauss, quand on a bien décrit.
Alors Mauss, c'est Marcel Mauss, c'est celui dont vous vous revendiquez.
Oui, c'est mon maître.
Et qui a été un des grands anthropologues, justement, des relations familiales, de la constitution et de l'importance de la famille à l'intérieur de nos sociétés. Mais puisque vous êtes notre opticienne préférée, Irène Théry, je voudrais vous faire écouter un document que nous avons tous entendu le 30 janvier 2013. Un document qui nous a ébranlés au plus fort de nous-mêmes, un document sonore qui va donner lieu à une loi qui va changer notre manière de vivre et notre manière de voir le monde. C'est une question de civilisation, c'est vous qui l'écrivez et je pense que vous avez raison. Nous allons entendre la voix de Christiane Taubira, c'était le 30 janvier 2013.
Pourquoi deux personnes qui se sont rencontrées, qui se sont aimées, qui ont vieilli ensemble, devraient consentir à la précarité par une fragilité, voire une injustice, du seul fait que la loi ne leur reconnaît pas les mêmes droits qu'à un autre couple aussi stable. Disons les choses. Qu'est-ce que le mariage homosexuel va enlever au couple hétérosexuel? Nous allons oser poser des mots sur des sentiments et sur des comportements. Nous allons oser parler de mensonges à l'occasion de cette campagne de panique, de pseudo-suppression des mots de père et de mère dans le code civil et dans le livret de famille. Et les couples homosexuels pourront adopter dans les mêmes conditions que les couples hétérosexuels, au nom d'un prétendu droit à l'enfant.
S'il vous plaît.
Vous refusez des droits à des enfants que vous choisissez de ne pas voir.
Que s'est-il passé ce jour-là, Irène Théry ?
Non, le discours de Christiane Taubira, c'est vraiment un grand moment historique. Il faut imaginer que le débat sur le mariage pour tous avait commencé en fait dès l'élection de François Hollande, mais paradoxalement pendant la campagne présidentielle avait été très peu présent. Et donc au moment de son élection, on allait tous de façon assez optimiste vers cette loi, puisque les sondages étaient très favorables, il n'y avait pas eu d'opposition pendant la campagne, etc. Et puis dès le mois d'août, en fait, certains secteurs, en particulier liés à l'Église catholique, mais pas simplement, des secteurs traditionnalistes commencent à s'organiser, à organiser leur opposition. C'est ce qui donnera la manif pour tous. Et pendant des mois, ce qui a été très difficile, c'est que le politique se taisait. On a eu un très long silence. Autant j'admire l'action qu'a eue François Hollande sur ce sujet, autant je m'interroge toujours sur la façon dont et lui et Jean-Marc Ayrault ont gardé ce silence, alors que quand on fait un changement aussi important que la redéfinition d'une institution aussi centrale que le mariage, dont le fait d'être l'union d'un homme et d'une femme était une condition constitutive, c'était pas annexe. Et donc, quand on le redéfinit en partie, il faut mettre des mots. Et Christiane Taubira, j'aime beaucoup l'extrait qu'on a entendu, mais il est, disons, plus affectif, etc. Mais il a été précédé d'une trentaine de minutes d'un discours historique qui essayait de faire comprendre ce que j'ai essayé moi aussi de faire à partir de ma place de sociologue. C'est comment il avait été possible que ce qui était à l'évidence une institution unissant un homme et une femme, au point que, en 1792, Quand on a été, il a été question de donner une définition du mariage dans le code civil, on a cherché des définitions et puis on se mettait pas d'accord parce que certains disent voulaient en dire plus sur le divorce, d'autres moins, etc. Et finalement, quelqu'un sort la définition minimale qui serait le mariage et l'union pour vivre ensemble de deux personnes de sexes différents. Il dit ça un peu pour remplir un peu la définition. L'Assemblée législative explose de rire et dire si on en est à dire que c'est l'union de deux personnes de sexe différent. Donc, notre travail, à la fois des politiques, mais aussi des sociologues et des historiens, c'est de faire comprendre cette métamorphose. Ce qui était l'évidence, c'est que le mariage n'était pas le lien d'un couple, c'était ce qui donnait un père aux enfants que les femmes mettaient au monde. Le cœur du mariage, disait le doyen Carbonnier, c'est la présomption de paternité. Et tout ce que nous avons essayé de faire dans ce temps-là, c'est de faire comprendre que si les homosexuels, gays et lesbiennes, avaient le désir de se marier, ça n'était pas simplement parce qu'ils étaient sortis du placard, parce qu'ils voulaient l'égalité avec les autres, c'est parce que l'institution elle-même leur tendait les bras, si je peux dire, parce qu'elle n'était plus l'institution qui donne un père aux enfants que les femmes mettent au monde. Ça, c'était terminé depuis les années 70, les grandes lois sur l'égalité des enfants naturels et légitimes, etc. Et donc, que le mariage était devenu l'institution d'un lien de couple, on pouvait le choisir ou le refuser, on pouvait rester en union libre, on pouvait se paxer, on pouvait aussi se marier. Et dès lors qu'il était cela, eh bien, le refuser aux couples de même sexe, alors que nous les avions reconnus comme des véritables couples, en 1998 ou 99 au moment du Pax, eh bien, n'avait pas de sens. Donc je crois que l'important, c'est de faire comprendre le changement. C'est ça qui est souvent difficile. Le rapport politique, moi je suis une sociologue engagée, mais je ne suis pas une sociologue militante. Dans le débat militant, on est amené principalement à disqualifier la position adverse ou la position du passé. Alors que le travail sociologique, pour moi, c'est presque, quelquefois, je dis, un exercice spirituel, je peux dire, de distance à soi, pour essayer de replacer les valeurs pour lesquelles nous nous battons aujourd'hui dans une histoire qui fait comprendre comment on voyait autrement les choses autrefois, pourquoi on a pu changer, etc. Je crois que c'est un facteur, cette compréhension de, c'est un facteur très important pour la société démocratique, pour la douceur démocratique. Si on ne comprend pas nos propres changements, et qu'on va de voilà, il est très difficile de leur donner la force. Moi, je suis très sensible au fait qu'aujourd'hui il y a des menaces sur le mariage pour tous. Elles sont relatives. Elles sont pour le moment relatives.
En tout cas, elles sont articulées à plus ou moins haute voix ces derniers temps.
Tout à fait haute voix, tout à fait haute voix, quitte à d'ailleurs s'emparer de ce débat social qui nous est annoncé par le gouvernement, de l'arraisonner presque. C'est vrai que ça nous montre qu'un groupe bien décidé peut s'emparer et instrumentaliser totalement le débat public. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'aucune religion jusqu'à présent n'a accepté, aucune des grandes religions n'a véritablement accepté le mariage de même sexe. Il y a des ouvertures en ce sens dans certains secteurs du protestantisme ou du judaïsme. Il y a bien sûr des secteurs aussi parmi les chrétiens, les catholiques, mais même quelques secteurs musulmans qui sont ouverts, mais ils sont très minoritaires. Donc, on ne peut pas dire que tant qu'il y a cette opposition religieuse, les choses sont réglées. Il peut y avoir des retours de bâton quand même. Donc, c'est pour ça que moi, je considère que mon engagement de 2012-2013, il doit être maintenu tout à fait éveillé, parce que des volontés de retour en arrière, comme sur la question des femmes, comme sur la question de l'avortement, comme sur d'autres questions, sont toujours possibles.
Alors, vous êtes une actrice dans le double sens du terme de nos changements sociaux, et ce, depuis des décennies, Irène Théry. Vous avez participé à l'élaboration de nouvelles chartes pour pouvoir vivre ensemble, justement, notre sexualité, nos institutions. Vous êtes une spécialiste du droit et de la famille et de l'évolution de la famille. Vous êtes autrice de concepts, par exemple, comme le démariage. Est-ce que tous ces changements-là vont ensemble ?
Oui, moi je pense qu'il y a dans l'ensemble. Ce que j'ai essayé de faire dans ma vie, si vous voulez, c'était, je sentais que ce qui appartenait aux hommes, quand moi j'étais petite, c'était la généralité. Nous, on avait l'acuité. C'est-à-dire l'acuité d'être dans une situation limitée et de sentir les choses, je dis nous les filles, les filles, les femmes, hein, l'acuité des relations personnelles, etc. On pouvait être très fort, très précise dans le détail. Mais moi, je sentais que l'émancipation, ça serait d'arriver à aussi, moi, et non pas comment dire faire semblant de la généralité, parce qu'il y a beaucoup d'aplomb dans une certaine arrogance masculine, d'essayer d'y voir un peu large. Ça se travaille, ça s'apprend, ça se cultive par la comparaison, etc. Et donc oui, je pense que ce que nous vivons, c'est un paradoxe. On a parlé de la fin de l'histoire. Moi, ça m'a toujours fait rire. Je suis une femme qui vit la plus grande révolution historique de l'histoire de l'humanité concernant les sexes, c'est-à-dire la première fois que des sociétés veulent vivre non plus selon un principe de complémentarité hiérarchique, mais d'égalité. Et au moment où on vit ça dans le monde entier, avec des déploiements différents, sont que les pays sont démocratiques, le sont moins, etc. Mais au moment où on vit ça, des gens viennent vous dire « c'est la fin de l'histoire ». Non, on vit une métamorphose immense qui ne se fera pas facilement, qui n'est pas inscrite dans une sorte de progressisme linéaire. Il n'y a pas de fatalité dans aucun sens, c'est une lutte. Comme il y a eu une lutte démocratique au XVIIIe siècle, eh bien il y a maintenant une lutte démocratique concernant ce sujet-là. Et elle est difficile, mais effectivement, tout prend sens si on aperçoit que ce sont diverses facettes de cette grande métamorphose, oui.
C'est parce que il y a moins de domination masculine à l'intérieur de nos sociétés occidentales, parce que il faut parler de l'Occident et préciser que ça se passe plutôt en Occident, hélas. C'est donc parce qu'il y aurait moins d'asservissement des femmes par rapport aux hommes que notre institution familiale évoluerait, que notre droit irait vers une reconnaissance de l'égalité entre les deux sexes, et que finalement notre société en général, dans son vivre ensemble, dans notre vivre ensemble, serait donc plus tolérante.
Oui, c'est pas moins de domination masculine. C'est le fait que nous ne voulons plus vivre selon une règle du jeu. Je pense que dans les sociétés, il y a des régularités, il y a des règles. Des règles du jeu auxquelles on se réfère pour agir les uns avec les autres. Et donc, la règle du jeu avait été, eh bien, au moment des révolutions démocratiques, il y a une exception nécessaire aux valeurs démocratiques de liberté, d'égalité, etc. C'est la question des sexes et la question de la famille. Là, ne pouvait l'emporter justement que la complémentarité hiérarchique entre les hommes et les femmes, les adultes et les enfants, etc. Les générations. Aujourd'hui, donc, on vit l'implosion de cette ancienne règle du jeu et l'émergence d'une nouvelle règle du jeu, à la fois en droit et dans les mœurs, etc. Et on le c'est quoi une société d'égalité des sexes? En partie, on le sait. C'est que les femmes aient les mêmes opportunités que les hommes. Que ce que mes petites filles pourront faire ne soit pas limité à l'avance dans les métiers qu'elles pourront faire, les valeurs qu'elles pourront exercer, la vie familiale, la vie affective qu'elles pourront mener. Mais c'est aussi une surprise quelque part. Par exemple, certains pensent que on va vers la disparition des sexes. C'est-à-dire que s'il y avait des hommes et des femmes, en gros, c'est parce que ça arrangeait les hommes de dire il y a deux sexes. Et donc, si c'est l'égalité, ça va être l'indifférenciation. Eh bien, moi, ce que je vois sous mes yeux, que j'essaye d'observer, c'est qu'on voit deux mouvements opposés. On a d'un côté, effectivement, des formes d'indifférenciation. Il y a des statuts qui ne sont plus masculins ou féminins. Vous êtes là, à ce micro, m'invitant à cette émission. Est-ce que ça aurait été possible il y a 60 ans? J'en suis pas certaine. Et en même temps, on voit des formes d'affirmation, justement, d'appartenance sexuée qui sont plus fortes que jamais. Moi, je suis quelquefois gênée, par exemple, je dois le dire, par la parité. C'est-à-dire, le fait qu'on dise, voilà,
l'obligation à nommer
une femme,
des gens.
Un homme, une femme, un homme, une femme, un homme,
seule
une femme.
La compétence doit être le critère.
Voilà, je pense que c'est la parité, c'est un mal nécessaire, disons. Voilà, c'est utile, c'est une politique d'affirmative action. Elle est utile parce que sans elle, on n'aurait pas avancé. Mais il faut avoir conscience que ça veut dire que chaque fois qu'une femme est quelque part, elle est là parce qu'une autre femme n'y est pas. Donc nous challengeons entre nous les femmes, les hommes entre eux. Enfin, tout ça ne me satisfait pas. Moi, j'ai un féminisme universel. Disons qu'ils pensent qu'il y a des domaines, bien sûr, dans lesquels les différences masculin-féminin, le plaisir d'être une femme s'expose, mais nous sommes en politique avant tout des individus au sens universel, et c'est effectivement les compétences, les capacités qui doivent être reconnues. Et donc j'aimerais bien que dans les jurys, qu'on vise un monde dans lequel on ait dépassé la parité, et non pas qu'on en ait fait l'alpha et l'oméga de la vie des sexes. Mais je vois qu'il y a les deux les deux aspects se conjuguent et j'observe avec intérêt et sans savoir quel va être le résultat, comment se met en place cette société d'égalité des sexes qui ne veut plus qu'il y ait un monde masculin, un monde féminin, mais qui veut une mixité un peu partout, une mixité qui fait peur à certains. Il y a des replis par rapport à cette mixité, des tentations de se reséparer. Qui s'amorce, des inquiétudes aussi, des inégalités sociales. Par exemple, j'ai vécu à Marseille plusieurs années, j'ai été frappée de voir tout autour de moi, dans les classes très populaires qui entouraient notre maison, comment les petites jeunes filles des classes populaires sont très bouleversées par les transformations des rapports de sexe, l'émancipation sexuelle, comment est-ce qu'elles arrivent à n'être ni putes ni soumises, comme selon l'expression. Et je me dis, là, il y a des forces nouvelles de différenciation sociale qui ne sont pas toujours perçues. C'est-à-dire, les classes les plus dotées culturellement, les plus aisées, recomposent leur civilité sexuelle. C'est clair qu'aujourd'hui, dans les colocations de nos enfants, eh bien, vivent des garçons et des filles. Ça aurait même pas été pensable du temps où j'étais une jeune fille de faire des colocations avec des garçons parce qu'on aurait imaginé tout de suite qu'on allait finir dans les lits les uns des autres. Donc, s'inventent des nouvelles façons de vivre ensemble qui sont certainement tout à fait intéressantes. Mais, c'est dans l'entre-soi des privilégiés, ça. Et je trouve que nous sommes une génération qui a peut-être, à force de ne vouloir jamais parler des valeurs, de ne vouloir jamais parler des normes, n'a pas défendu publiquement et explicitement les nouvelles valeurs qu'elle mettait en place pour elle-même dans l'entre-soi de sa vie affective, de sa vie privée, etc. Et du coup, ça devient un marqueur social, ça devient un élément, retrouvons Bourdieu, de distinction sociale. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très grave, que d'abandonner toute une... de ne pas se sentir solidaire tous ensemble, justement, de l'édiction de ces valeurs fortes qui sont nécessaires, qui...
Alors, ces valeurs, ce sont évidemment le respect, l'égalité des sexes...
Oui, par exemple, dans la famille...
La générosité...
Dans la famille, la responsabilité...
L'humanité...
Oui, la responsabilité, par exemple. Je travaille beaucoup sur la procréation médicalement assistée. Dans ce domaine, eh bien, je constate que la valeur de responsabilité a été très peu mise en œuvre. On organise des dons, par exemple, des dons de sperme, des dons d'ovocytes, etc. Et on les dissimule au lieu de les revendiquer pour maintenir les apparences d'une famille, papa, maman, les enfants, fondée sur la biologie. Alors que
on fait semblant, toujours.
Oui, mais on va très loin. Hein. Ça, c'est quand même très traditionnel comme façon de faire. Et justement, par rapport à la famille traditionnelle, avec les apparences qui sont sauves, et puis tous les arrangements d'arrière-cuisine qui appartient vraiment à une vision d'autrefois, il me semble qu'aujourd'hui, sans plaider une espèce de transparence généralisée, on pense que les valeurs d'authenticité, de respect de l'histoire de l'enfant, à combien d'enfants on n'a pas raconté leur histoire? Combien ont découvert
maintenant
qu'ils avaient
été... Maintenant, c'est possible. Vous êtes une des grandes spécialistes de l'adoption
oui,
et
c'est...
maintenant, vous êtes réjouie publiquement, d'ailleurs,
bien sûr.
Nouvelles lois qui permettent aux enfants adoptés de pouvoir connaître leur propre histoire.
Et j'aimerais que les enfants nés de PMA, qui pour l'immense majorité d'entre eux, donc PMA avec dons, ne savent pas qu'ils sont nés de dons, parce que les médecins, le droit, ont enjoint à leurs parents de ne pas leur dire, et après les parents ont été pris dans cette logique, ils ne savaient plus comment arrêter, et qui quelquefois découvrent à 20 ans, 30 ans, avec des effondrements, que les choses ne sont pas comme ils croyaient. Bon, j'aimerais qu'on en vienne à une solution dans laquelle on puisse tout simplement assumer qu'il y a les familles issues de la procréation, il y a les familles issues de l'adoption, et il y a aussi les familles issues de l'engendrement avec don, que ce don soit un don de sperme, un don d'ovocyte, mais également un don de gestation, comme ça arrive, c'est possible dans un certain nombre de pays démocratiques, de façon tout à fait éthique, et donc que ces familles qu'on fait à trois, on va dire, quelquefois à quatre, avec des places tout à fait claires de chacun, puissent enfin avoir une place au soleil dans le paysage familial contemporain. Donc ce qui manque, c'est ça. Et tout le débat sur la PMA qui est devant nous, c'est un débat sur le don d'engendrement. C'est pas la PMA entre à l'intérieur
alors,
du couple
PMA,
hétérosexuel.
Procréation médicalement assistée.
Voilà. Il faut savoir
vous excluez de facto la GPA.
Non, je l'exclus pas du tout, mais je pense que la question de la gestation pour autrui, sa réglementation en France n'est pas à l'ordre du jour. Moi, je pense qu'il faut d'abord déjà arriver à avoir un débat sur deux choses, c'est-à-dire la réalité de la GPA dans le monde. J'ai essayé d'y contribuer avec des collègues. Il y a dans ce qu'on appelle la GPA des réalités absolument opposées. Il y a des GPA tout à fait éthiques et remarquables qui existent dans un certain nombre de pays, et je les ai vus, je les ai rencontrés. Je ne laisserai jamais dire que ça n'existe pas. Et il y a des GPA qui sont purement et simplement une instrumentalisation
des ventres des femmes. Pays les plus déshérités.
Voilà. Oui, très souvent. Et donc on ne peut pas mettre tout ça dans un même panier en disant est-ce que vous êtes pour ou contre ça, parce que je suis pour l'un et contre l'autre, bien entendu. Mais ce qui est à l'ordre du jour sur la GPA, c'est en revanche, ce sont les droits des enfants nés de GPA à l'étranger. C'est vraiment incroyable que ces enfants aient des parents. Ils ont des parents aux États-Unis, par exemple, et nous refusons toujours de transcrire la double filiation de ces enfants à l'état civil français. Alors, on a commencé avec ma grand-mère. Ma grand-mère, elle était une bâtarde, elle était une paria sociale. Je ne veux pas qu'on refasse des enfants parias sociaux. Et c'est ce qu'on est en train de faire des enfants nés de GPA à l'étranger. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour Marc-Olivier Fogiel d'avoir écrit ce livre, dans lequel d'ailleurs d'autres GPA que la sienne sont largement étudiés. Il ne parle pas que de son cas. Mais il a eu le courage de s'affronter à l'opprobre parce que il savait qu'il le devait à ceux qui ont moins d'appui que lui. Et il l'a fait de façon remarquable et pour que justement ses enfants et les autres enfants que nous connaissons et qui ne sont pas des bébés en celluloïdes comme ils sont caricaturés de façon ignoble par les opposants, que ces enfants puissent ne pas être traités comme des étrangers dans leur propre pays. Parce que c'est ça que pour le moment on fait. C'est-à-dire, ils sont là, ils ont la nationalité française, mais ils ne sont pas à l'état civil français, ils sont à l'état civil étranger. Vous voyez, ils sont étrangers chez eux. Et ça, c'est une façon vraiment c'est indigne de traiter des enfants de cette façon. Et j'espère que grâce à la prochaine révision des lois bioéthiques, enfin, cette question qui a progressé un petit peu récemment sera résolue dans tous les cas.
Dernière question, Irène Théry. Le statut de l'enfant, la vie de l'enfant est au cœur de vos préoccupations, à la fois sociologiques, éthiques, humanistes. On a l'impression que l'évolution du statut de l'enfant devient une sorte de surenchère symbolique et qu'il est tiraillé à la fois par des gens qui disent « mais alors c'est l'enfant roi, si l'enfant n'a pas un père et une mère, peut-il continuer à être un enfant ?» etc. En même temps, par rapport à la loi, on a l'impression que on est enfant pas très longtemps, peut-être pas assez longtemps. Là, je parle des récentes lois sur le consentement sexuel. Que désirez-vous pour l'évolution du statut de l'enfant dans l'année qui vient et dans les deux années qui arrivent?
On ne peut pas séparer la question du statut de l'enfant des questions relationnelles dans lesquelles il est pris. C'est l'enfant dans ses rapports avec ses parents, l'enfant en tant qu'il peut être victime d'abus sexuels. Donc chaque fois, il faut le prendre dans une situation. On ne peut pas dire de façon globale. Mais ce que je crois vraiment nouveau, c'est cette idée que un enfant a une histoire, que cette histoire ne se confond pas avec celle de ses parents, et qu'il n'est pas la chose de ses parents d'ailleurs. Et donc, répondre à la question « qui s'est raconté une histoire ?», disait Hannah Arendt, eh bien le respect de l'identité narrative de l'enfant, ça me paraît central. Ça peut être organisateur pour la famille, par exemple pour la PMA. Le jour où nous respecterons l'identité narrative des enfants nés de ces procréations assistées avec dons, beaucoup de choses paraîtront plus simples et on cessera d'opposer les homos, les hétéros, etc. Parce qu'on verra bien que les couples de femmes, les couples d'hommes, les couples hétérosexuels ont tous procédé d'une façon où ils essayaient de faire en sorte de pouvoir raconter à l'enfant la belle histoire de sa mise au monde avec l'aide de tierces personnes qui étaient tout à fait consentantes pour aider les autres à devenir parents. Et concernant la question sexuelle, je suis pour que on soit très prudent dans la façon dont on accompagne les enfants progressivement vers l'autonomie. C'est-à-dire, j'ai trouvé assez On n'a pas plus beaucoup de temps, mais autour des débats sur les abus sexuels sur mineurs, certains étaient et ne voyaient plus que c'est très important les distinctions entre 12 ans, 13 ans, 15 ans, 16 ans, puisque c'est là justement des premières relations sexuelles. On ne peut pas faire comme si toute relation avec un mineur, d'un majeur avec un mineur, était un viol, par exemple. Bon, il faut beaucoup de, comment dire, il faut beaucoup d'attention, de justesse. Voilà, ce que je dirais sur cette question, c'est qu'il n'y a pas de justice sans justesse. Et c'est vrai qu'il y a une bonne partie des jeunes gens qui vivent leurs premières expériences sexuelles. L'un a 16 ans, l'autre en a 18. Est-ce qu'on va criminaliser tout ça? Vous voyez, il faut être très attentif. Il y a une pratique à... Comment dire, je fais davantage confiance aux juges, d'un certain temps, qu'à des tentations qui sont quelquefois exprimées, de régler le problème en disant, eh bien... Ça va être simple. Il y a les mineurs. Là, rien n'est autorisé avec les mineurs. Il y a les majeurs. Ils font tout ce qu'ils veulent si c'est consenti. En fait, que nous le voulions ou non, de la minorité vers la majorité, il y a un processus en matière sexuelle d'émancipation progressive. Hein. Et à 13 ans, c'est pas la même chose que quand on n'a pas de puberté. Et à 15 ans, c'est encore autre chose. Et à 18 ans, c'est encore autre chose. Je pense qu'il faut préserver absolument ces paliers, que c'est ça l'accompagnement vers l'autonomie que nous devons non seulement aux enfants mais aux jeunes.
Merci infiniment Irène Théry, American Dream.
Lover, don't you come down without a sword or a gun. For the gold and the silver you're searching is hidden out there underground. But there's a beast on the cloak, guarding against the foe. And the ghost from the river, she won't let you get any close. It was just an American dream. It was just an American dream. Yeah, yeah. It was just an American dream. Lover, don't make a sound. Bring your rifle around. When I say hallelujah, it's your cue to shoot at the head of the hound. Now take just what you need, baby. Anymore won't fit your bed. Go as fast as your feet they will carry, for the greater chases be dead. He was just an American dream.
Merci à Serge Viguier à la technique ce soir, à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux, à Elodie Royan, Sophie Dazard et Antoine Joubert, ainsi qu'à Lilian Alaume qui a réalisé cette émission. Mon cher Mishka, vous avez entendu Ondara pour son Hello, American Hello. Dreamin'. Je vous ai écouté hier j'entends soir avec des tout. Très belles voix. Vous allez continuer à nous enchanter ce soir?
Mais je viens de vous entendre, Laure, en tout cas. Mais oui, écoutez, c'est mon souhait le plus cher. C'est tout ce que je peux vous dire.
Bon, bah alors à tout à l'heure pour ce voyage sonore et sensuel après le prochain journal de la rédac.